Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ces journaux, au Kassai Oriental, 8 sites de dépistage gratuits de l'hypertension et du diabète sont ouverts ce vendredi en Mbujimayi. Cette opération organisée à l'occasion du 10e anniversaire de l'Ordre National des Infirmiers du Congo vise à favoriser la détection précoce de ces deux maladies en progression dans la province où l'attendrait. Autre temps fort de cette édition au Nord Kivu, près de 40 000 personnes déplacées et familles d'accueil bénéficient depuis les débuts de la semaine d'une assistance alimentaire du PAM à Lubero Centre, une aide destinée aux populations affectées par plusieurs années d'insécurité. Et à suivre à la fin de cette édition, notre invité Mathieu Kamuleta, coordonnateur provincial du PADRID au Maniema, il revient sur les initiatives de ses programmes pour lutter contre la malnutrition, notamment à travers la promotion des jardins potagers et de l'autosuffisance alimentaire. Voilà pour les principaux titres, les détails dans un instant. Christian Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouvrons ce journal en Mbujimayi, où 8 sites de prélèvement gratuit de la tension artérielle et de la glycémie sont ouverts ce vendredi à travers la ville. L'opération vise à favoriser les dépistages précoces de l'hypertension et du diabète, deux maladies silencieuses en progression au Kassai oriental. L'initiative est organisée par l'Ordre national des infirmiers du Congo, qui célèbre ses 10 ans d'existence. Henriette Missenga, présidente provinciale de l'ONIC, appelle la population à se faire dépister massivement. Elle est au micro d'Esther Ndalafina.
En tant qu'infirmière, nous avons 4 responsabilités: administrer les soins, la promotion de la santé, la prévention des maladies, la réhabilitation de la santé et aussi l'enseignement et des recherches scientifiques. Notre population attend beaucoup de nous. Alors nous invitons notre communauté de venir. C'est gratuit, il n'y a rien qu'ils vont devoir donner, mais on préfère que ça soit le matin. Parce que la glycémie, c'est pour doser le sucre. Bon, vulgairement, on parle des sucres dans le sang. Alors, c'est à jeun qu'on doit faire cet examen. Ça sera seulement en un seul jour, de 8h à 17h. Il y a déjà les sites qui sont déjà programmés. Il y en a 8 en diagonale de CHPM. C'est le site numéro 1. Site 2, Rompoué Mamayemo. Site 3, devant la mairie. Site 4, à l'esplanade de la maison communale de Bipemba. Site 5, au marché site Chibombo. Site 6 à la paroisse Saint-Moukassa, site 7 au centre Campen Senyongolo et site 7 au péage au niveau de Chiting.
Dans le même registre au Maniema, l'Ordre des infirmiers marque également ses 10e anniversaire par une opération de proximité. À Kindu, des infirmiers proposent gratuitement ce vendredi le contrôle de la tension artérielle et de la glycémie dans plusieurs endroits fréquentés de la ville, notamment le marché, le gouvernorat, la mosquée centrale et l'hôpital de l'aéroport. L'objectif est de rapprocher ces services de prévention de la population. Reportage de Florence Kizalunga.
Ces prélèvements volontaires et gratuits de la tension artérielle et de la glycémie permettent à toute la population de connaître son taux de glycémie et sa tension artérielle. Dans les hôpitaux, ces examens sont d'habitude payants, mais gratuits en séjour. Docteur Kong Mani les confirme.
La tension, on la fait gratuitement, mais la glycémie, nous la faisons payer à 5000 francs parce que nous devons nous procurer des bandelettes qu'on utilise. Par jour, nous avons 10 à 20 personnes qui viennent et nous comprenons que c'est un problème dans la communauté.
Les bénéficiaires expriment leur gratitude et souhaitent que cette opération se poursuive.
Je remercie les infirmiers parce que cet examen à l'hôpital, on paye ici, on a fait gratuitement. Nous demandons les infirmiers de continuer ainsi.
Pour le président provincial de l'Ordre des infirmiers, ce geste permet à la population de bénéficier toujours de leurs services. Dieudonné Barouani.
Cette activité, nous le faisons aujourd'hui seulement, puisque c'est une activité qui coûte. Mais aujourd'hui, comme nous sommes fiers de notre 10e anniversaire, nous nous sacrifions, bien que le gouvernement ne se sacrifie pas pour nous. Notre souci est que la population connaisse sa tension artérielle et sa glycémie.
Signalons que cette activité n'était organisée que pour une seule journée. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
et du secteur de la santé à celui de l'accès à l'eau potable direction le Nord Kivu. À Kibirizi, dans les territoires de Rutshuru, les habitants entrevoient une amélioration après près de 3 mois des pénuries d'eau potable. Médecins sans frontières a remis jeudi un important lot d'équipements destinés aux travaux de réhabilitation et de récaptage de l'eau. Une intervention accueillie avec soulagement par la population locale. Bernard Nyangui pour le détail.
L'accès à l'eau potable reste un défi majeur à Kibirizi, a indiqué Médecins sans frontières, MSF, lors de la remise du matériel au comité local d'adduction d'eau le 30 juillet 2026. Cette assistance accordée à la suite des alertes du comité comprend 22 rouleaux de tuyaux de 100 mètres chacun, 24 raccords à compression et un raccord réducteur. Elle vise à améliorer l'approvisionnement en eau et à prévenir les maladies hydriques. Depuis mai 2026, Kibirizi est confronté à une grave pénurie d'eau. Plusieurs bornes et fontaines aménagées par Merci Corps étant hors service en raison de l'assèchement des sources ou de la dégradation des canalisations. Selon le médecin chef de la zone de santé de Kibirizi, le docteur Lambert Balikwisha, cet appui bénéficiera à la population ainsi qu'aux structures de santé dans un contexte marqué notamment par l'apparition d'au moins 3 cas de choléra à l'hôpital général de référence de Kibirizi.
Toujours au Nord Kivu, mais cette fois sur les terrains humanitaires, une assistance alimentaire est distribuée aux populations affectées par l'insécurité. Près de 40 000 personnes déplacées et familles d'accueil bénéficient depuis le début de la semaine d'une aide du Programme alimentaire mondial à Lubero Centre. Cette assistance vise à répondre aux besoins alimentaires de populations fragilisées par plusieurs années d'insécurité dans la région. Des détails avec Martial Papi-Moukeba.
Haricots, farine de maïs, céréales et légumineuses, c'est le contenu des rations distribuées aux déplacés et aux familles d'accueil à Lubero Centre. Cette opération, menée par l'association des petits éleveurs, tanneurs et maroquiniers du Congo à Petamako avec l'appui du Programme alimentaire mondial, comprend aussi des compléments nutritionnels destinés aux enfants les plus vulnérables. Cette assistance concerne essentiellement des ménages et a fui les combats dans les sites du territoire de Lubero lors de l'occupation de plusieurs localités par l'AFC M23, mais aussi des familles déplacées par les attaques répétées des ADF et d'autres groupes armés. La société civile locale salue cette assistance tout en rappelant qu'elle ne répond qu'à l'urgence. Pour elle, le véritable défi reste le retour de la paix en fait de permettre aux milliers de déplacés installés depuis plus de 2 ans à Lubero Centre de regagner leur village. Béni, Martial Papi-Moukeba, Radio Okapi.
Pendant ces temps en Ituri, la journée de la femme africaine met en lumière la lutte contre les violences basées sur le genre. Grâce à un financement des 168 000 dollars américains de ONU Femmes, l'association des mamans anti-Bouaki a lancé à Bounia le projet Aki Yamwanake Kijieni. L'initiative vise à renforcer la protection, l'accès à la justice et à l'autonomisation de femmes vivant en milieu rural dans les zones de santé des Bounia et Darou. Les récits de Jean-Claude Lokidide.
Parmi les bénéficiaires figure Virginie Kakwa, mère de 3 enfants, victime de violence il y a près de 20 ans. Elle a perdu un pied et vit depuis dans une précarité. Comme de nombreuses femmes en situation de handicap, elle espère que ce projet changera réellement leur quotidien.
Le projet va beaucoup nous aider à prendre en charge nos enfants, car souvent les femmes vivant avec handicap sont abandonnées avec leur grossesse par leurs auteurs.
Pour les autorités locales, cette initiative répond à une réalité préoccupante dans les communautés rurales. Jules Taguirabo, représentant du bourgmestre de la commune de Mbounia.
Beaucoup de cas de viol dans la communauté. Les auteurs de ces viols courent dans la nature jusqu'à aujourd'hui. Les victimes ont été sans assistance, sans prise à charge, sans accompagnement, ont été abandonnées.
Au-delà de l'assistance aux survivantes, le projet prévoit également un accompagnement économique afin de favoriser leur autonomie, explique Béatrice Divé, responsable de l'ONG AMAB.
Il y aura un appui pour la réinsertion socio-économique de manière qu'on relève d'abord le niveau des femmes.
Pendant 12 mois, le projet entend ainsi améliorer l'accès des femmes et des filles rurales aux services de prise en charge tout en renforçant leurs droits et leur autonomisation économique. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
À présent, une clarification de la MONUSCO après le retour en RDC de 39 personnes renvoyées par les autorités rwandaises. Dans un communiqué publié jeudi, la mission onusienne précise que ces personnes avaient auparavant été rapatriées au Rwanda dans le cadre de son programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation. Elle affirme n'avoir participé ni à leur transfert, ni à leur retour sur le territoire congolais et rappelle que tout rapatriement est soumis à un processus de vérification préalable. Dans l'Équateur, les questions d'assainissement sont au centre de la nouvelle session du Conseil communal de Mbandaka. Ouverte jeudi 30 juillet, cette session ordinaire se poursuivra jusqu'au 28 juillet. Les conseillers doivent notamment évaluer les travaux d'assainissement et d'hygiène environnementale prévus dans le plan d'aménagement de la commune. Les détails avec Askin Zigbia Tayoro.
Selon le président du bureau du conseil communal, Gelor Ekonzo Ilengila, ce plan d'action porte sur l'aménagement des espaces publics, la gestion des marchés et l'installation des lampadaires pour l'éclairage public dans le dit quartier de la ville. L'objectif est de renforcer la gouvernance locale et d'assurer un meilleur contrôle de l'exécutif communal. D'après le conseil communal, le bourgmestre est tenu d'appliquer ce plan d'assainissement. Toutefois, sa mise en œuvre sur le terrain reste insuffisante. À l'ouverture de cette session, le président du conseil a par ailleurs remercié le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, pour sa décision d'attribuer au conseil communal le pouvoir de contrôler le bourgmestre. Ce dernier est nommé par ordonnance présidentielle, tandis que les conseillers sont élus par le peuple. En clair, selon le témoignage de 9 conseillers communaux, le bourgmestre nommé par ordonnance présidentielle ne respecte pas les exigences liées au rôle du conseil communal. Ces remerciements concernent également la prise en charge salariale des conseillers communaux par le gouvernement central, des salaires qui n'étaient pas prévus dans le budget de l'État. Interrogé sur l'actualité politique nationale, Gelor Ekonzo Ilengila s'est dit favorable à une révision ou à un changement de la constitution tout en insistant sur la nécessité de soumettre cette réforme au vote du peuple par référendum.
Du côté des transports, le retour du train entre Matadi et Kinshasa s'est fait toujours entendre. Le trafic ferroviaire reste suspendu sous plusieurs tronçons endommagés par le forte pluie d'avril dernier. Selon la direction du chemin de fer du Congo central, de travaux de réhabilitation sont en cours à Limiti et à Kimwenza. Ces dégâts retardent la reprise des trains de voyageurs et de marchandises annoncés par l'ONATRA. Elise Kavira pour les détails.
Alors que la population du Congo central espérait retrouver les voyages en train entre Matadi et Kinshasa, les dégâts causés par les pluies diluviennes qui ont frappé la capitale congolaise en avril dernier continuent de retarder la reprise complète du trafic voyageurs et marchandises sur cette voie ferroviaire. À Limété, sur l'avenue Poids Lourd, au niveau de la 17e rue, un ouvrage de drainage s'est effondré, fragilisant la voie ferrée. Des travaux sont en cours pour reconstruire cette infrastructure et permettre une meilleure évacuation des eaux. À Kimwenza également, le chemin de fer a été endommagé. Les équipes techniques y reconstruisent un système de drainage qui devra canaliser les eaux vers la rivière Lukaya et sécuriser durablement la voie. Selon Jean-Claude Ngoma Moussa, directeur du chemin de fer du Congo central, la reprise complète des trains voyageurs et marchandises dépend de l'achèvement de ces travaux de réhabilitation. Il rassure toutefois que les chantiers avancent à un bon rythme et que le retour à la normale ne devra plus tarder. En attendant, un trafic partiel est maintenu entre Matadi, Minkelo et Lukaya pour le transport des marchandises, notamment celles destinées aux cimenteries de la région. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Enfin, au Kasaï central, construire une maison devient de plus en plus coûteux à Kananga. Le prix de la brique cuite connaît une forte hausse depuis quelques mois. Autrefois vendue à 100 francs congolais, elle coûte désormais entre 200 et 300 francs. Le vendeur attribue cette hausse à l'augmentation de coûts de production, une situation qui pèse sur les chantiers. Certaines familles ralentissent leurs travaux, tandis que d'autres les abandonnent complètement. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
À la carrière des Nanza, le pile des briques s'aligne, mais les clients se font de plus en plus rares. En cause, la hausse du prix des briques cuites. Les producteurs expliquent que leurs coûts de production ont fortement augmenté. Autrefois, ils utilisaient du bois mort pour la cuisson. Aujourd'hui, ils ont recours à la braise, devenue plus coûteuse. À cela s'ajoutent les prix du transport et celui de la main d'œuvre. Produire une brique coûte désormais plus cher. Pour couper un arbre, il faut payer les taxes du service de l'environnement qui sont élevées. Les transports coûtent aussi très cher. Voilà pourquoi nous avons opté pour la braise. Mais elle est chère et difficile à trouver. Face à cette situation, le particulier revoit leur projet. Certains construisent par petites étapes, d'autres attendent des jours meilleurs. Sur son chantier, Jean Bilolo peine à terminer les fondations. Son budget ne suffit plus.
La brique, c'est à 300 francs, mais avec les transports, nous pouvons aller jusqu'à 500 francs. L'achat du ciment aussi nous coûte, du sable aussi, et aussi les mansions.
Les maçons ressentent aussi les effets de cette hausse. Les chantiers se font moins nombreux, les travaux avancent lentement, les revenus baissent. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud propose un dialogue continental sur la migration alors que le pays est de nouveau confronté à des accusations de xénophobie. Après de nouvelles violences visant des ressortissants étrangers, Pretoria souhaite que l'Union africaine organise une conférence panafricaine consacrée aux causes du sentiment anti-migrant et à la recherche d'une réponse commune. Cette initiative intervient alors que ces violences ont fait plusieurs morts et provoqué des déplacements des dizaines de milliers de personnes, suscitant également des tensions avec plusieurs pays africains.
L'invité.
Comme annoncé au sommaire, nous terminons cette édition avec notre invité, Mathieu Kamouleta, coordinateur provincial du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient, PADRI d'Omanima. Il revient sur l'engagement de ces programmes gouvernementaux dans la lutte contre la malnutrition. Au-delà de ses interventions dans le secteur agricole et des infrastructures, le PADRI sensibilise les communautés à la création de jardins potagers pour diversifier l'alimentation des ménages et favoriser l'autosuffisance alimentaire. Mathieu Kamouleta répond aux questions de Florence Kizalunga.
Mathieu Kamouleta, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Tous on connaît que PADRI est dans les infrastructures et l'agriculture. Aujourd'hui, vous basculez vers la nutrition. Quel lien existe-t-il entre PADRI et la nutrition?
Oui, merci beaucoup pour la question. Ce n'est pas que nous avons basculé. On reste toujours dans les volets agricoles et infrastructures. Mais il y a une enquête qui a été menée. L'enquête nutritionnelle a relevé qu'il y a une malnutrition très élevé dans la province de Maniema et malheureusement c'est surtout aux alentours des zones minières, c'est ce qui nous étonne, là où les gens font des minéraux, ce sont eux qui mangent mal contrairement aux zones où ils sont plus dans l'agriculture.
C'est ce qui vous pousse à former les nutritionnistes aujourd'hui de la province du Maniema?
Effectivement, nous organisons cette formation appelée la formation des formateurs. Ces nutritionnistes formés seront déployés sur le terrain et là à leur tour ils vont aussi former les relais communautaires de base et former d'autres équipes du terrain jusqu'à ce que c'est une formation en cascade, jusqu'à ce qu'on va atteindre le ménage.
Alors, la lutte contre la malnutrition dans le pays, tout comme dans la province, ne nécessite pas seulement la formation des cadres sanitaires et communautaires, mais quel est autre appui des PADRI en faveur des communautés pour lutter contre la malnutrition en province?
Effectivement, comme vous venez de le dire, notre approche de combat contre la malnutrition est diversifiée ou bien multiforme. Nous allons dans la formation, la sensibilisation pour que les gens soient à mesure de comprendre et de bien constituer leur ration alimentaire. Mais s'ils n'ont pas d'aliments, comment ils vont constituer cette ration alimentaire? C'est ainsi que nous évoluons avec la distribution de la semence de riz, de maïs, de soja surtout, d'arachide et les boutures de manioc. Nous évoluons également dans la distribution de la semence des produits maraîchers. C'est ce qui est souvent rare, c'est-à-dire les légumes. Nous sommes dans une approche de chaque ménage avec un jardin potager, les jardins de cases. L'enquête a montré que les gens consomment plus de 60 à 70%. Ils consomment sur les 7 jours les foufou avec les pondou, ce qui est inadmissible. Alors c'est ainsi qu'on va les renforcer, pas seulement avec la semence maraîchère. Nous sommes aussi dans la pisciculture. Nous allons intensifier la pisciculture pour qu'il y ait abondance de poissons. Il y a une étude sur les closeries et stations d'alevinage. Tout ça, c'est dans les soucis qu'il y ait suffisamment d'alevins, parce que la plupart des temps que vous constatez dans la ville, il n'y a rien, c'est de l'eau. Quelqu'un peut mettre pour un état de 0,5 hectare, il met 10 poissons et il attend que ces 10 poissons se multiplient 4 et 5 fois, ce qui est inadmissible. Maintenant, nous sommes en train de nous battre pour que les closeries soient là, les stations d'alevinage modernes soient aussi opérationnelles pour que la population ait accès à ces intrants d'une grande qualité. Et nous sommes également dans l'élevage et y compris aussi des lapins dans d'autres zones où les gens préfèrent cette viande. Le but, c'est quoi? Ces porcs, on ne va pas les donner directement au ménage, on va les donner à des groupes, à des coopératives ou à des associations. Quand ça commence, quand au moment de la reproduction, ils vont se partager les porcelains ou ils vont se partager les poussins, ainsi de suite.
Autant donné que les projets Padrir existent, vous distribuez les semences, tout ce que vous avez dit là, c'est-à-dire l'impact n'est pas encore considérable au sein de la communauté.
Bon, là c'est discutable. Il est vrai que le projet n'a pas encore atteint l'impact souhaité, mais nous ne sommes plus là où nous étions. Quand vous allez, je vais vous donner un exemple élémentaire, quand vous circulez dans toute la ville de Kindu, il y a une variété d'arachides. Nous connaissons, c'est la G17, que les ménages appellent Muzalazala. Mais c'est Padrir qui a introduit cette variété. Elle a concurrencé toutes les variétés. Elle a même chassé toutes les variétés d'arachides qui étaient là. Et ça augmente la production, ça augmente les revenus des ménages, parce que toutes les variétés d'arachides qui circulaient dans la province de Maniema étaient déjà obsolètes et dégénérées. Mais aujourd'hui, avec la variété appelée Muzalazala, bon, je ne sais pas comment la population a trouvé ce nom, mais c'est la variété G17, introduite par Padrir, qui est en vague et qui est dans chaque quartier, dans chaque coin de la rue de Kindu. Si vous voulez manger l'arachide de bouche, c'est G17. C'est Padrir qui a introduit cette variété. Donc l'impact est là, et nous venons de voir sur le plan des infrastructures, nous sommes déjà tout près de Kayuyu. Maintenant, les choses évoluent plus ou moins bien. Il y a les sources qui sont en réhabilitation, plus de 30 sources. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Le Maniema aura pour la première fois sa propre station INERA opérationnelle. En bref, je dirais, le souci du projet Padrir est d'accompagner la communauté.
Mathieu Kamuleta, merci.
Merci beaucoup.
Fin de cet entretien avec Mathieu Kamuleta, coordonnateur provincial du Padrir au Maniema. Il répondait aux questions de Florence Kizalunga sur les actions menées pour lutter contre la malnutrition et favoriser l'autosuffisance alimentaire dans la province. C'est ici que prend fin cette grande édition des 18h présentée par Christian Makasinga sous la supervision de Levin Bouinga et Jean-Désiré Kanyama à la coordination. Alain Goya a assuré la mise en onde. Retrouvez ces journaux en podcast sur notre site www.radiocapi.net ainsi que sur nos différentes plateformes numériques. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ces jours.